Chapitre 6. Répercussions. Vous êtes arrivé, Davad. Descendez. La portière était coincée et Davad n'essayait pas de l'ouvrir. Dans l'obscurité, Althea distinguait les contours pâles de son visage. Il était recroquevillé dans un coin, paupières obstinément closes. En prenant appui d'un pied sur la voiture, elle secoua la portière qui céda brusquement. Elle faillit tomber à la renverse, ce qui n'aurait pas causé trop de dommages à la robe qui empestait le sang, l'ordure et la sueur. Le trajet avait été éprouvant. Elle s'était attendue à chaque instant à faire verser la voiture ou à être attaquée par les ennemis de Davad. Ils étaient arrivés devant la porte, mais pas de palefrenier ni de serviteur pour les accueillir. Des lumières erratiques brillaient à travers les fenêtres, mais pour l'accueil réservé au maître, la maison aurait pu aussi bien être abandonnée. Une lanterne éclairait faiblement le porche. « Comment s'appelle votre palefrenier ?» demanda Althea irritée.
« Je ne sais pas, » fit Davad ahuri. « Je ne lui parle pas. »
« Parfait !» Elle rejeta la tête en arrière et se mit à brailler dans le grand style d'un second maître.
« Hé, sors d'ici et occupe-toi des chevaux ! Hé, valet, ton maître est rentré !»
Quelqu'un souleva un coin de rideau et risqua un coup d'œil. Elle entendit des pas, puis entrevit un mouvement dans la cour obscure. Elle se tourna dans cette direction.
« Sors-toi de là et prends les chevaux !»
La mince silhouette hésita.
« Tout de suite !»
aboya-t-elle. Le garçon qui sortait de l'ombre n'avait pas plus de 11 ans. Il s'approcha à hauteur de la tête des chevaux, puis s'arrêta indécis. Althea eut un reniflement exaspéré.
« Davad, si vous n'êtes pas capable de vous faire obéir de vos domestiques, vous devriez engager un intendant qui s'en chargera. »
Ses réserves de courtoisie étaient épuisées.
« Vous avez raison, j'imagine, »
admit-il humblement. Il descendit de voiture. Althea le dévisagea. Durant le trajet, il était devenu un vieillard. Le visage affaissé avait perdu l'effronterie qui le caractérisait. Ses vêtements étaient souillés par les excréments et le sang dont il n'avait pu se préserver. Il écartait les mains de son corps devant lui, désolé, dégoûté. Elle croisa son regard. Il avait l'air blessé et contrit. Il secoua lentement la tête.
« Je ne comprends pas. Qui a pu faire une chose pareille? Pourquoi ?»
Elle était trop lasse pour répondre à une question aussi vaste.
« Rentrez chez vous, Davad. Prenez un bain et couchez-vous. Il sera toujours temps de penser à tout ça demain. »
C'était ridicule, mais elle sentait soudain qu'il avait besoin d'être traité en enfant. Il paraissait si vulnérable.
« Merci, » dit-il à mi-voix. « Vous tenez beaucoup de votre père, Althea. Nous n'étions pas toujours du même avis, mais je l'admirais. Il ne perdait pas son temps à critiquer. Comme vous, il intervenait simplement pour résoudre les problèmes. »
Il s'interrompit.
« Il faudrait que quelqu'un vous raccompagne. Je vais appeler un homme et donner l'ordre qu'on amène un cheval. »
Mais il n'avait pas l'air d'être en mesure de le faire. Une femme ouvrit la porte. Un ray de lumière éclaira le seuil. Elle risqua un coup d'œil au dehors, mais ne dit rien. À bout de patience, Althea lança d'un ton brusque.
« Appelez un valet pour aider votre maître. Faites-lui préparer un bain chaud et sortez-lui des vêtements propres. Et veillez à ce qu'on lui serve un repas simple et de la tisane. Rien d'épicé ni de gras. Allez !»
La femme fila à l'intérieur de la maison en laissant la porte entrouverte. Althea l'entendit donner des ordres d'une voix stridente.
« Maintenant voilà que vous ressemblez à votre mère. Vous avez tant fait pour moi. Pas seulement ce soir, mais durant toutes ces années, vous et votre famille. Comment pourrais-je jamais vous le rendre ?»
Ce n'était pas le moment idéal pour lui poser cette question. Le palefrenier s'était approché. À la clarté de la lanterne, on distinguait sur l'aile du nez un tatouage en forme d'araignée. Sa tunique en haillons était à peine plus longue qu'une chemise. Il se ratatina sous le regard noir d'Althea.
« Dites-lui qu'il n'est plus un esclave, désormais » fit-elle d'une voix catégorique.
« Dire « Je vous demande pardon ?»
Davad secoua un peu la tête comme s'il doutait d'avoir bien entendu. Elle s'éclaircit la gorge. Elle trouvait difficile soudain d'avoir de la sympathie pour ce petit homme. Dites à ce gamin qu'il n'est plus esclave. Donnez-lui sa liberté. C'est comme ça que vous pouvez me remercier.
Mais je... Vous ne parlez pas sérieusement. Vous savez combien vaut un gamin aussi robuste? Les yeux bleus et les cheveux blonds sont très prisés chez les domestiques en Chalcède. Si je le garde un an en le formant comme valet, savez-vous combien il vaudra?
Elle le regarda. Beaucoup plus que vous ne l'avez payé, Davad. Beaucoup plus que vous ne pourriez le vendre. Elle ajouta avec cruauté. Et votre fils, il valait combien à vos yeux? Je crois savoir qu'il était blond.
Il blêmit et chancela. Il se retint à la voiture, puis retira vivement la main de la portière poisseuse de sang.
« Pourquoi dites-vous une chose pareille ? »
gémit-il soudain.
« Pourquoi tout le monde se retourne-t-il contre moi ?»«
Davad, » reprit-elle en secouant lentement la tête, « c'est vous qui vous êtes retourné contre nous. Ouvrez les yeux. Pensez à ce que vous faites. Le bien et le mal ne sont pas le profit et la perte. On ne peut pas gagner de l'argent par n'importe quel moyen. » Aujourd'hui, il se peut que vous tiriez un profit juteux du conflit entre les premiers et les nouveaux marchands. Mais cela ne va pas durer éternellement et à la fin, vous verrez. Les uns vous considéreront comme un renégat, les autres comme un traître. Qui seront vos amis alors ?
Davad restait figé à la dévisager. Elle se demanda pourquoi elle usait sa salive. Il ne tiendrait aucun compte de ses paroles. Il était vieux, encrouté dans ses habitudes. Un valet se présenta à la porte.
Il mâchonnait et son menton luisait de graisse. Il vint prendre son maître par le bras, puis recula avec un haut-le-corps.
« Vous êtes dégoûtant !»
s'exclama-t-il écœuré.
« Et vous, vous êtes fainéant !» rétorqua Althea. « Aidez votre maître et occupez-vous de lui au lieu de vous remplir l'estomac pendant qu'il n'est pas là. Et que ça saute !»
Le valet réagit à son ton autoritaire. Avec précaution, il tendit le bras vers son maître.
D'un geste lent, Davad y prit appui, avança de quelques pas, puis s'arrêta. Sans se retourner, il déclara
« Prenez un cheval dans l'écurie pour rentrer. Voulez-vous qu'on vous raccompagne ?»«
Non, merci, ce n'est pas la peine. »
Elle ne voulait plus rien accepter de lui.
Il hocha la tête, puis ajouta quelque chose à voix basse.
« Je vous demande pardon. »
Et il s'éclaircit la gorge.
« Emmenez le gamin, alors. » Palefrenier, va avec la dame. »
Il respira et reprit sur un ton accablé.
« Tu es libre. »
Et il rentra dans la maison sans un regard en arrière. Elle avait une miniature de lui. Elle l'avait supplié de poser pour le peintre peu de temps après leur mariage.
Il avait trouvé l'idée ridicule, mais...
Elle était sa femme et il avait cédé.
Il avait subi de mauvaise grâce les séances de pose. Papas était trop honnête pour avoir doté Kyle Havre d'un regard débonnaire ou pour avoir effacé le pli chagrin entre les sourcils.
À présent, Kefria regardait le portrait de Kyle qui la dévisageait avec son immuable expression d'agacement et d'impatience. Elle s'appliqua à tailler dans les couches douloureuses qui s'étaient accumulées dans son cœur pour atteindre un noyau d'amour. Il était son mari, le père de ses enfants. Il était le seul homme qu'elle eût jamais connu. Pourtant, honnêtement, elle ne pouvait pas dire qu'elle l'aimait. Bizarre. Il lui manquait. Elle désirait son retour, non pas seulement parce qu'il ramènerait son fils et le navire. Elle désirait Kyle pour lui-même. Parfois, il est plus important de pouvoir compter sur quelqu'un de fort que d'aimer. En même temps, elle avait besoin de faire le point avec lui. Durant les mois qu'avait duré son absence, elle avait découvert qu'elle avait des choses à lui dire. Elle avait décidé de forcer son respect, comme elle avait appris à forcer celui de sa mère et de sa sœur. Elle ne voulait pas qu'il disparaisse de sa vie avant d'y être parvenue. Si elle n'obtenait pas son estime, elle douterait toujours d'en être vraiment digne. Elle referma le médaillon et le replaça sur l'étagère. Elle avait grande envie d'aller se coucher, mais s'y refusait tant qu'Althea n'était pas rentrée. Elle se rendit compte que ses sentiments à l'égard de sa sœur étaient la réplique de ceux qu'elle éprouvait pour son mari. Chaque fois qu'elle avait l'impression de se rapprocher d'Althea, Celle-ci prouvait qu'elle n'agissait que dans son propre intérêt. Ce soir, à la réunion, elle avait fait comprendre sans ambiguïté que ce n'était pas Yema ni Kyle qui lui importaient, mais le navire. Elle voulait que Vivacia rentre à Terrylville pour en contester à Kefria la propriété. C'était tout. Elle quitta sa chambre et erra dans la maison comme un spectre. Elle alla jeter un coup d'œil dans la chambre de Seldon. Il était profondément endormi, insouciant des problèmes qui assaillaient sa famille. En arrivant à la porte de Malta, elle frappa légèrement. Il n'y eut pas de réponse. Malta dormait aussi du sommeil aisé des enfants. Elle s'était si bien comportée à la réunion. Pendant le trajet de retour, elle s'était abstenue de toute allusion à l'émeute qui avait failli éclater et avait mis Greg Ténira à l'aise en bavardant avec insouciance. La gamine grandissait. Kefria descendit l'escalier. Elle savait qu'elle trouverait sa mère dans le cabinet de travail. Ronica, elle non plus, n'irait pas se coucher tant qu'Althea ne serait pas rentrée. Puisqu'il fallait veiller, autant veiller ensemble. En traversant le vestibule, elle entendit des pas légers sur le porche. Ce devait être Althea. Kefria fronça les sourcils, agacée, quand elle entendit frapper. Pourquoi ne faisait-elle pas le tour par la porte de la cuisine? « J'y vais !» lança-t-elle à sa mère et elle s'avança pour tirer le loquet. Brachentrell et cette fabricante de perles se tenaient sur le seuil. Il portait toujours les mêmes vêtements. Ses yeux étaient injectés de sang. Sa compagne avait l'air calme. L'expression était aimable, mais elle ne semblait pas confuse de se présenter à cette heure indue. Kefria les regarda, les yeux ronds. Voilà qui passait les limites de la politesse. C'était déjà incorrect de la part de Brachen de venir si tard sans être annoncé, mais par-dessus le marché, il avait amené une étrangère. « Oui ? » fit-elle gênée. Sa mine contrainte ne parut pas troubler le marin.
« Il faut que je vous parle à toutes les trois, »
déclara-t-il sans préambule.
« À quel sujet ? » ?»«
À propos de votre mari et du navire. »
s'empressa-t-il de dire.
« Ambre et moi, nous avons une idée à vous proposer pour les récupérer tous les deux. »
Il fit un signe de tête vers sa compagne et Kefria remarqua qu'il avait le visage luisant de sueur. La nuit était douce et agréable. Ses manières fébriles étaient inquiétantes.
« Kefria, Althea est rentrée ?»
demanda sa mère à l'autre bout du vestibule.
« Non, mère, c'est Brachentrell et... Ambre. » « La fabricante de perles ?»
Ronica apparut vivement à la porte du cabinet. Comme Kefria, elle était en chemise de nuit et en châle. Elle avait dénoué ses cheveux. Avec les longues mèches grisonnantes qui encadraient son visage, elle paraissait vieille, égarée. Brachen poussa la délicatesse jusqu'à prendre un air un peu confus.
« Je sais qu'il est tard, »
s'empressa-t-il de dire, « mais Ambre et moi avons mis au point un plan qui pourrait nous profiter à tous, grandement. » Il regarda Kefria bien en face, ce qui, apparemment, lui demanda un effort.
« Je crois que c'est notre seule chance de ramener votre mari, votre fils et le navire sain et sauf. »
« Si je ne me trompe, vous n'avez jamais montré beaucoup de sympathie ni de respect à l'égard de mon mari ?»
dit Kefria avec raideur. Si Brachentrell était venue seule, elle aurait peut-être été plus aimable avec lui, mais elle était hérissée par la présence de son étrange compagne. Elle avait entendu trop de rumeurs singulières à son sujet. Elle ignorait ce qu'ils cherchaient tous les deux, mais elle doutait fort de leur désintéressement.
Sympathie, non. Respect, oui. À sa manière, Kyle Havre était un capitaine compétent. Simplement, ce n'est pas Efron Vestrit.
Il remarqua l'attitude compassée de Kefria et ses yeux froids.
Ce soir, pendant la réunion, Althea a demandé de l'aide. C'est ce que je suis venu lui proposer. Elle est ici ?
Il était d'une brusquerie.
« Peut-être un moment plus convenable, »
commença-t-elle, mais sa mère l'interrompit.
« Fais-les entrer. Amène-les dans le bureau, Kefria. Nous ne pouvons nous permettre de faire la fine bouche avec nos alliés. Ce soir, je suis prête à écouter toute idée qui pourrait favoriser la réunion de notre famille, quelle que soit l'heure. »«
Comme tu voudras, mère, »
dit Kefria d'un ton guindé. Elle s'écarta pour les laisser passer. La femme eut l'audace de lui adresser un regard plein de sympathie. Même son odeur était singulière, sans parler de l'étrange nuance de son teint.
Kefria n'avait rien contre les étrangers en général. Beaucoup étaient charmants et passionnants. Mais cette fabricante de perles la mettait mal à l'aise. Peut-être était-ce dû à sa manière de se comporter d'égal à égal avec les gens, quels qu'ils soient. En les suivant de mauvaise grâce dans le vestibule et jusqu'au cabinet de travail, elle essaya de ne pas penser au vilain bruit qui courait sur cette femme et Althea. Ronica ne semblait pas partager les réticences de sa fille. Quoiqu'elles fussent toutes les deux en vêtements de nuit, elle les accueillit et les fit entrer. Elle sonna Rack et lui demanda d'apporter de la tisane pour les visiteurs.
« Althea n'est pas encore rentrée, » dit Ronica avant que Brashen ait pu poser la question. « Je l'attends. »
Il parut inquiet.
« C'est une méchante farce qu'on a faite au marchand Restart. Je me suis demandé s'il ne trouverait pas pire en rentrant chez lui. Vous n'êtes sans doute pas au courant. Il y a eu des troubles graves à Terrilville cette nuit. Je crois que je ferais mieux d'aller à la recherche d'Althea. Puis-je vous emprunter un cheval ?»«
Je n'ai que ma vieille... »
commença Ronica, mais elle fut interrompue par un bruit à la porte.
Brashen passa dans l'entrée avec un empressement qui trahit son inquiétude.
C'est Althea avec un gamin,
annonça-t-il, et il alla à sa rencontre à grandes enjambées, comme s'il était chez lui et qu'elle fût son hôte.
Kefria et Ronica échangèrent un regard. Si cette dernière était simplement déconcertée, sa fille, elle, était de plus en plus choquée par cette conduite saugrenue. Il y avait quelque chose qui clochait chez lui.
Elle voulut prendre la main du gamin pour le mener à la porte, mais il se recula à son contact. Pauvre garçon. Comme il avait dû être maltraité pour craindre à ce point le contact d'une main. Elle ouvrit la porte et lui fit signe d'entrer.
« Tout va bien. Personne ne te fera de mal. Entre !»
Elle parlait lentement, sur un ton rassurant.
Elle n'était même pas certaine qu'il comprenne.
Il n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté la maison de Davad. Un chemin long et pénible dans le noir, jalonné de noires pensées. Elle avait échoué magistralement ce soir. Elle n'avait pas attendu son tour pour prendre la parole et avait probablement précipité la suspension de séance. Le conseil n'avait même pas accepté de les écouter officiellement. Elle avait été forcée de voir Davad Restart tel qu'il était devenu. Elle craignait fort que d'autres marchands soient tombés aussi bas que lui.
Et à cause de sa langue trop bien pendue, elle s'était embarrassée d'un gamin qu'elle n'avait pas les moyens d'entretenir. C'était elle la cause de tout. Elle ne désirait qu'une chose, un bain et son lit. Mais il fallait d'abord s'occuper du garçon.
Au moins, cela pouvait difficilement être pire ce soir.
Puis elle songea qu'il lui faudrait affronter Kefria et sa mère après ce qu'elle avait dit au conseil, et son humeur chuta en flèche. Le garçon avait gravi le perron, mais ne paraissait pas disposé à pénétrer dans la maison.
Althea ouvrit la porte toute grande et franchit le seuil.
« Allez, entre !» fit-elle pour l'encourager.
« Ça, merci, vous allez bien !»
Elle sursauta en entendant la voix profonde derrière elle et fit volte-face.
Brashen fonçait sur elle, le visage épanoui. Mais le soulagement fit aussitôt place à la désapprobation, et il lui donna un savon comme un mauvais matelot.
« Vous en avez eu de la veine qu'on ne vous ait pas attaqué. Quand j'ai appris que vous aviez conduit la voiture de Restart, je n'arrivais pas à y croire. Qu'est-ce qui vous a pris de vous coltiner un âne pareil qui s'échauffe la bile contre...
Oh, mais qu'est-ce que c'est ?»
Il s'arrêta à un pas d'elle en changeant de figure. Il leva une main à son nez.
« C'est pas moi !»
protesta avec indignation le garçon d'une voix flûtée avec l'accent des six duchés.
« C'est elle !» Elle a de la mède tout patout.
Devant le regard outré d'Althea, il haussa les épaules un peu contrit.
C'est vrai, j'avais besoin d'un bain,
ajouta-t-il d'une petite voix.
C'était le coup de grâce. La mesure était comble. Elle reporta sa hargne sur Brashen.
Que faites-vous ici?
Demanda-t-elle plus brutalement qu'elle ne l'aurait voulu.
Brashen la détaillait des pieds à la tête.
« Je m'inquiétais. Comme d'habitude, vous m'avez l'air d'avoir échappé aux conséquences de vos coups de tête. Mais cela dit, il faut que je vous parle, c'est très important. Ça concerne Vivacia et le moyen de la récupérer. Ambre et moi, nous croyons tenir une idée.
Il se peut que vous la trouviez stupide, elle ne vous plaira probablement pas, mais je pense que ça marchera. »
Il parlait précipitamment,
les mots sortaient trop vite comme s'il la mettait au défi de désapprouver.
« Si vous voulez bien écouter et y réfléchir, vous finirez par constater que c'est le seul moyen de sauver le navire. »
Il croisa son regard.
« Mais cela peut attendre. Le gamin a raison. Vous devriez d'abord aller vous laver. Ça sent vraiment mauvais. »
conclut-il avec un petit sourire fugace. Voilà qui ressemblait un peu trop à ce qu'il avait dit quand il s'était séparé à Chandelle.
Se moquait-il d'elle pour le lui rappeler, ici et maintenant? Comment osait-il lui parler avec cette familiarité chez elle?
Elle lui décocha un regard mauvais. Il ouvrait la bouche quand le gamin l'interrompit.
« Y a rien qui pue pire que la mettre de cochon
» renchérit-il joyeusement.
« La laissez pas vous en mettre dessus »
conseilla-t-il à Braschen.
« Aucun risque !» leur répondit-elle froidement à tous les deux. « Vous pouvez disposer !»
fit-elle à l'endroit de Braschen. Il la regarda, ahuri, passer à côté de lui d'un air digne. Elle pouvait pardonner au garçon. Ce n'était qu'un gamin débarqué dans un lieu inconnu, dans une situation bizarre. Mais les manières de Trelle étaient inexcusables. La journée avait été trop longue. Elle ne voulait plus entendre un mot de lui. Elle était épuisée d'une saleté repoussante et, ça lui pardonne, morte de faim. De la lumière et des voix lui parvenaient du bureau de son père. Elle allait devoir affronter aussi sa mère et sa sœur. Parvenue à la porte du cabinet de travail, elle avait plaqué sur son visage un calme de façade. Elle pénétra dans la pièce confortable, bien consciente que la puanteur du cochon l'avait précédée. Elle serait brève.
« Je suis rentrée. Je suis saine et sauve. J'ai amené un petit garçon avec moi. Davad s'en servait comme garçon d'écurie. Mère, je sais qu'on ne peut se charger d'un fardeau supplémentaire en ce moment, mais il est tatoué comme un esclave et je n'ai pas pu le laisser comme ça. »
L'expression de Kefria était horrifiée. Althea s'interrompit en apercevant Ambre. Elle était là, elle aussi. Le petit esclave se tenait sur le seuil, ses yeux pâles tout écarquillés. Il lançait des regards furtifs sur tout le monde, sans parler. Quand Althea voulut lui prendre le bras pour le tirer dans la pièce, il se dégagea vivement. Elle eut un rire qui sonna faux.
« C'est le sang et l'ordure, je crois. Il n'a pas voulu monter avec moi sur le cheval, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps. On a laissé le cheval et on est rentré à pied. »
Althea cherchait des yeux quelqu'un qui viendrait à sa rescousse. Kefria regardait derrière elle et sa sœur tourna la tête. Braschen Trelle se tenait un peu en retrait, bras croisés, l'air très buté. Il rencontra son regard sensible et impassible.
« Viens, petit, on ne va pas te faire de mal. Comment t'appelles-tu ? »
dit Ronica d'une voix lasse mais bienveillante. Le gamin ne bougea pas. Althea décida brusquement de s'éclipser, du moins provisoirement.
« Je vais prendre un bain et me changer, je n'en ai pas pour longtemps. »
« Je n'en aurai pas pour longtemps non plus de vous exposer notre idée !»
rétorqua Braschen énergiquement. Ils s'affrontèrent du regard, et elle ne baissa pas les yeux. Lui-même sentait la fumée et la sindine. Il se prenait pour qui? Elle n'allait pas se laisser tyranniser par lui chez elle dans sa propre maison.
« Je regrette, mais je suis beaucoup trop fatiguée pour vous écouter davantage, Braschen Trelle !»
La limite était étroite entre la politesse et la froideur quand elle reprit
« Je crois qu'il est bien tard pour bavarder. »
L'espace d'un instant, il sembla presque blessé par la rebuffade et ses lèvres s'affaissèrent. Rack, qui pénétrait dans la pièce, les sortit de l'impasse. Elle portait un plateau chargé de tasses, d'un grand pot de tisane et d'une petite assiette de gâteau aux épices, juste assez pour respecter les formes. Le garçon ne bougea pas, mais dilata les narines pour en humer l'odeur, comme un chien.
« Althea !»
intervint Ronica d'un ton qui tenait plus du rappel à l'ordre que de la réprimande.
« Moi, en tout cas, je suis curieuse de savoir ce que Braschen a à nous proposer. Je crois que nous devons examiner toutes les solutions possibles. Si tu es fatiguée, nous t'excuserons, bien sûr, mais j'apprécierais que tu reviennes. »
Elle reporta les yeux sur la servante et lui sourit en manière d'excuse.
« Rack, si cela ne te fait rien, il nous faudrait des tasses en plus, et quelque chose de plus solide que des gâteaux pour ce garçon, s'il te plaît. »
La voix de Ronica était mesurée et maîtrisée comme si le fait était habituel. Devant la courtoisie de sa mère, Althea fut saisie de remords. Tout de même, c'était le toit paternel. Elle se radoucit.
« Comme tu veux, mère.
Vous m'excuserez, je n'en ai que pour quelques minutes. » Kefria servit la tisane à ses hôtes un peu particuliers. Elle tenta par politesse de faire la conversation, mais sa mère gardait les yeux fixés sur l'âtre froid tandis que Brashen arpentait la pièce. Ambre jugea bon de s'asseoir en tailleur non loin du garçon qui restait là à hésiter. Ignorant les efforts de Kefria, elle appâtait le petit esclave avec des morceaux de gâteau, comme s'il était un chiot timide, jusqu'à ce que finalement il lui chipe dans la main un gâteau tout entier. Ambre se comportait avec aisance et naturelle. Elle sourit avec fierté quand le gamin se fourra le gâteau dans la bouche.
« Tu vois, » lui dit-elle à mi-voix, « les gens sont gentils ici. Tu es en sûreté maintenant. »
Althea tint parole. Rack revenait avec un autre pot de tisane, des tasses et un plat chaud pour le garçon quand elle réapparut. « Elle a dû se laver à l'eau froide pour être si rapide, » pensa Kefria. Elle avait passé une simple robe d'intérieur et avait tressé et attaché strictement ses cheveux humides. L'eau froide lui avait rougi les joues. Elle trouvait moyen de paraître à la fois fatiguée et rafraîchie. Sans s'excuser, elle se servit de la tisane et du gâteau. Elle jeta un coup d'œil à Ambre, puis vint la rejoindre en s'asseyant elle aussi par terre. Le garçon s'installa de l'autre côté, complètement absorbé dans son assiette. C'est à Ambre qu'elle s'adressa la première.
« Brashen dit que vous avez un plan pour sauver la Vivacia. Il m'a précisé aussi que le plan ne me plairait pas, mais que je finirais par constater que c'est le seul moyen. De quoi s'agit-il ?»
Ambre lança un regard complice à Brashen.
« Merci de l'avoir si bien préparé, »
lança-t-elle sur un ton sèchement sarcastique. Elle haussa les épaules et soupira.
« Il est tard. Je crois que je vais l'exposer brièvement, puis vous laisser y réfléchir ensemble. »
Elle se leva avec grâce, comme soulevée par une ficelle, s'avança au milieu de la pièce et les regarda l'un après l'autre pour s'assurer de leur attention. Elle sourit au petit garçon qui engloutissait sa nourriture sans avoir conscience de rien autour de lui que la bouchée suivante. Elle esquissa un léger salut et commença. Kefria trouva qu'elle ressemblait à un comédien sur scène.
« Voilà ce que je propose. Pour reprendre une vive nef, servons-nous d'une vive nef. Le parangon, pour être précise. Nous l'achetons, le louons ou le volons, nous embarquons un équipage à son bord avec Brashen comme capitaine et nous allons rechercher la Vivacia. » Dans le silence atterré qui suivit, elle ajouta « Si vous doutez de mes motifs, soyez assurés que je suis poussé en grande partie par le désir d'épargner à Parangon d'être débité en planche. Je pense que votre bon ami Davad Restart pourrait jouer un rôle déterminant dans cette affaire en persuadant l'élu de chance de se séparer de leur navire pour un prix raisonnable. Il semble avoir leur oreille quand il leur fait part des offres scandaleuses de nouveaux marchands. Peut-être sera-t-il désireux de saisir cette occasion de se racheter auprès des premiers marchands? Peut-être est-ce encore plus vrai après ce qu'il s'est passé cette nuit. Je suis prête à mettre tout ce que je possède pour payer le navire. Alors, qu'en dites-vous?
Non, répliqua Althea catégoriquement. Et pourquoi non?
Demanda Malta. Elle franchit le seuil. Elle portait un châle épais de laine bleue sur sa chemise de nuit blanche. Ses joues étaient encore toutes roses de sommeil. Elle promena son regard autour de la pièce.
« J'ai eu un cauchemar. Quand je me suis réveillée, j'ai entendu vos voix. Je suis descendue voir ce qu'il se passait. »
proposa-t-elle en guise d'explication.
« Je vous ai entendu dire que vous pourriez envoyer un bateau pour sauver papa. Maman, grand-mère, comment Althea serait-elle en mesure de nous l'interdire? Le plan me paraît raisonnable. » Pourquoi ne pas aller nous-mêmes au secours de papa ?
Althea commença à énumérer ses raisons en comptant sur ses doigts.
Parangon est fou. Il a déjà tué plusieurs équipages. Il peut recommencer. Parangon est une vive nef.
Il ne peut donc naviguer qu'avec un membre de sa famille. Cela fait des années qu'il n'a pas navigué. On ne l'a même pas renfloué. Je ne crois pas que nous ayons les moyens d'acheter le parangon et de le réarmer comme il en aurait besoin. En outre, en admettant que ce soit possible, pourquoi Brashen serait-il le capitaine? Pourquoi pas moi?
Il eut un bref éclat de rire.
La voilà la véritable objection!
S'exclama-t-il d'une voix étrangement altérée. Il sortit un mouchoir et s'épongea le front. Personne ne fit écho à son rire. Son attitude trahissait une sorte de fébrilité que même Althea parut remarquer. Elle coula un regard en biais vers Ambre qui ne daigna pas réagir.
Kefria décida que c'était peut-être à elle maintenant de parler net.
« Pardonnez-moi si j'ai l'air si sceptique, mais je ne vois pas pourquoi vous auriez envie de vous mêler de ça tous les deux. Pourquoi une étrangère irait-elle miser toute sa fortune sur une vive nef folle? Et Brashentrell, quel intérêt aurait-il à risquer sa vie pour un homme qui a mis en doute ses compétences de marin? Nous pourrions perdre le reste de la fortune des Vestrit si vous ne reveniez jamais. »
Les yeux de Brashen étincelèrent.
« J'ai beau être déshérité, cela ne signifie pas que je sois entièrement sans honneur. »
Il s'interrompit et secoua la tête.
« Ce soir, il vaudrait mieux que nous parlions carrément. Kefria Vestrit, vous craignez que je prenne le parangon et que je devienne pirate. Je pourrais. Je ne le nie pas. Mais je ne le ferai pas. Quels que soient nos différends, je pense qu'Althea se porterait tout de même garante de mon honnêteté. Votre père l'aurait fait, je le sais. »
« En ce qui me concerne, » ajouta Ambre tranquillement, « je vous ai déjà dit que je souhaitais empêcher le démembrement du parangon. Nous sommes amis. Je suis aussi l'ami de votre sœur. En outre, je me sens obligé d'agir ainsi. Je n'ai pas de meilleure explication. Je crains que vous ne deviez prendre ma proposition pour argent comptant. Je n'ai pas d'autre garantie à vous donner. »
Le silence retomba dans la pièce. Brashen croisa les bras. Son front était creusé de rides profondes. Il attacha son regard sur Althea et la dévisagea d'un air de défi qui ne se voulait nullement courtois. Celle-ci évitait de croiser ses yeux et scrutait sa mère. Malta se trémoussait et observait les adultes l'un après l'autre.
« Je reviendrai demain soir !»
lâcha soudain Brashen. Il attendit qu'Althea se décide à le regarder.
« Réfléchissez-y, Althea. J'ai constaté l'état d'esprit des marchands quand ils sont partis ce soir. Je doute que vous receviez beaucoup de propositions d'aide, et encore moins une meilleure que la nôtre. »
Il s'interrompit, puis s'adressant à elle seule, il dit d'une voix radoucie,
« Si vous désirez me parler d'ici là, laissez un message à la boutique d'Ambre. Elle sait où me trouver. »
« Vous vivez à bord du parangon ?»
demanda Althea d'une voix rauque.
« La nuit, parfois, »
répondit-il évasivement.
« Et combien de sindines avez-vous consommé aujourd'hui ? »
ajouta-t-elle méchamment.
« Pas du tout, »
rétorqua Brashen qui s'autorisa un sourire amer.
« C'est bien le problème. »
Puis, après un coup d'œil à Ambre,
« Je ferai mieux d'y aller maintenant. »
« Je crois que je vais rester encore un peu. »
dit Ambre comme si elle s'en excusait.
Comme vous voulez. Eh bien, bonsoir à tout le monde alors, fit-il en esquissant un salut.
Attendez,
s'écria vivement Malta.
S'il vous plaît, je veux dire, s'il vous plaît, attendez.
L'angoisse inhabituelle qui vibrait dans la voix de sa fille surprit Kefria.
Puis-je vous poser quelques questions sur Parangon?
Brashen concentra toute son attention sur elle.
« Si vous me demandez à moi, certainement. »
Malta promena autour de la pièce un regard suppliant.
« S'il nous quitte pour nous laisser réfléchir, alors, c'est comme tu dis toujours, grand-mère, les chiffres sont irrécusables et indispensables pour prendre des décisions. Alors, si nous voulons examiner la question, nous devons d'abord connaître les chiffres. »
C'était comme si Ronica était prise entre le marteau et l'enclume. Saisissement ou approbation.
« C'est vrai. »
Malta respira.
« Bon. Tant Althea semble d'avis que le parangon aurait besoin de beaucoup de réparations avant de pouvoir reprendre la mer. Mais on m'a toujours dit que le bois sorcier ne pourrissait pas. Pensez-vous qu'il soit vraiment nécessaire de le remettre en état ?
Pas autant qu'un bateau ordinaire, mais oui, il y a beaucoup à faire. Le Parangon est un vieux navire. On a utilisé bien plus de bois sorcier pour sa construction que pour les autres vives-nefs. Les parties en bois sorcier sont saines. Le reste est en bon état, ce qui est étonnant. Je crois que le bois sorcier éloigne les vers et les insectes comme le cèdre pour les mythes. Mais il aurait tout de même besoin de grosses réparations et d'armement. Des mâts, des voiles, des cordages, des ancres, une chaîne et une yole, plus l'équipement de la coquerie, des outils de charpentier, une pharmacie, toute chose qu'un navire doit avoir à bord pour constituer un petit monde à soi tout seul. Un sérieux calfatage, une grande partie des cuivres à remplacer. Ambre a déjà restauré l'intérieur et les emménagements en bois, mais il reste énormément à faire. Des dépenses seraient encore à prévoir pour les vivres nécessaires au voyage. Il nous faudrait des réserves d'argent ou de marchandises, au cas où nous pourrions faire une offre de rançon pour le navire et les hommes. Il faudrait aussi se procurer des armes, au cas où le capitaine Kenneth refuserait de marchander, et, si nous en avons les moyens, des machines de pont. Et puis de l'argent d'avance pour engager des matelots.
Vous croyez que vous pourrez dénicher des marins valables ?
Intervint Althea qui avait retrouvé sa voix.
Disposé à s'embarquer sur le Parangon ? Vous oubliez sa réputation de meurtrier, je crois.
À moins que vous soyez prêt à le payer très cher, pourquoi un bon matelot voudrait-il naviguer sur un vaisseau pareil ?
Kefria devina les efforts que faisait sa sœur pour rester polie. Sans doute l'intérêt d'Althea était-il éveillé malgré ses dénigrements.
« En effet, ce sera un problème, » concéda volontiers Brashen.
Il s'épongea une nouvelle fois le visage avec son mouchoir qu'il replia avec soin. Ses mains tremblaient légèrement.
« Il s'en trouvera peut-être quelques-uns qui s'engageront par pure audace. Il y a des marins qui ont plus de tripes que de cervelle. Je commencerai par l'ancien équipage de votre père sur la Vivacia que Kyle a débarqué. Certains pourraient accepter par amour pour le navire ou en mémoire de votre père. »
« Pour le reste, » poursuivit-il en haussant les épaules, « on n'aurait plus qu'à se rabattre sur le rebut et les agitateurs. Cela dépendra beaucoup du second que nous aurons. Un bon second peut vous transformer des vauriens en solide équipage, si on lui donne carte blanche. »«
Qu'est-ce qui les empêchera de se retourner contre vous quand... »«
Les chiffres !»
intervint Malta, irrité.
« À quoi bon se tracasser avec des « et si » tant qu'on ne sait pas si ce sera possible financièrement ?»
Elle alla à l'ancien bureau de son grand-père.
« Si je vous donne du papier et de l'encre, pouvez-vous noter ce que tout ça va coûter selon vous ?»«
Je ne suis pas un expert, » commença Brashen. « Il y a des choses qui devront être faites par des professionnels et... »
« À supposer que vous trouviez des charpentiers prêts à travailler sur le Parangon ?»
renchérit Althea sur un ton sarcastique.
« Il a mauvaise réputation. Et à supposer que les Luchans donnent leur autorisation et... »
Malta serra les poings sur le papier qu'elle venait de sortir du tiroir. Kefria crut qu'elle allait en faire une boule et le jeter par terre. Mais la jeune fille ferma les yeux et inspira profondément.
« À supposer tout cela, alors, combien ? Et nous est-il possible de réunir cette somme ? Tant que nous n'avons pas répondu à ces questions, il n'y a pas lieu de s'en poser d'autres.
Il n'y a pas que le manque d'argent. On peut très bien échouer sur d'autres écueils. »
grogna Althea exaspérée.
« Ce que je dis, » reprit Malta d'une voix maîtrisée, « c'est qu'on devrait envisager ces écueils au fur et à mesure. Si nous n'avons pas de quoi engager des matelots, nous n'avons pas à nous inquiéter de savoir qui acceptera ou non de naviguer pour nous. »
Althea regarda sa nièce. Éberluée. Kefria sentit ses muscles se contracter. Sa sœur avait la langue acérée. Si elle commençait à se moquer de Malta, alors que la jeune fille faisait de gros efforts pour raisonner de façon pragmatique, Kefria ne chercherait même pas à se maîtriser.
« Tu as raison, » dit soudain Althea. Elle regarda sa mère. « Avons-nous des réserves, des biens qui ne soient pas hypothéqués et que nous pourrions vendre ?»«
Quelques-uns. »
répondit Ronica à mi-voix en tournant distraitement l'anneau à son doigt.
« Mais nous devons nous rappeler que nous avons bientôt une échéance à honorer, que nous soyons ou non en possession du navire. Les Rouprous vont attendre. »«
Ne tiens pas compte de cela, » dit Malta tout bas. « J'accepterai la cour de Reine. je vais fixer une date pour notre mariage à la condition que mon père soit rentré pour y assister. Ce qui nous évitera de payer cette dette et nous procurera peut-être une aide financière pour enflouer le parangon. »
Un profond silence remplit la pièce, comme un seau rempli à ras-bord d'eau pure, pensa Kefria. Il ne s'agissait pas seulement de calme, mais d'un moment de claire perception. Elle regarda sa fille et la vit tout à coup comme une autre personne. La petite fille gâtée et têtue qui ne reculait devant rien pour arriver à ses fins était devenue subitement une jeune femme prête à tout sacrifier, jusqu'à elle-même, pour secourir son père. Cet acte de volonté inébranlable était stupéfiant. Kefria se mordit la langue pour s'empêcher de dire que Kyle ne méritait pas ce sacrifice. Il ne comprendrait jamais que, pour sa fille, il ne s'agissait pas d'un élan de courage passager, mais de sa vie entière. Personne ne vaut qu'on lui sacrifie sa vie entière. Elle jeta un coup d'œil au petit esclave qui les observait tous en silence et songea à son couple. Un sourire amer lui crispa les lèvres. Une femme avait déjà consenti ce sacrifice à Kyle Havre.
« Malta, je t'en prie, ne t'engage pas dans ces conditions !» dit-elle, surprise elle-même par l'autorité qui vibrait dans sa voix. « C'est à toi de décider, je ne conteste pas. Que tu sois disposé à prendre une décision prouve assez ta maturité. Je te demande simplement de la retarder tant que nous n'aurons pas examiné toutes les autres possibilités. »«
Quelles autres possibilités ?»
interrogea Malta sur un ton désespéré.
« Personne ne nous est venu en aide jusqu'ici, alors que nous avions déjà des soucis. Qui va nous aider aujourd'hui, selon toi ?»«
La famille Ténira, peut-être. » intervint Alta à mi-voix. « Certains propriétaires de Vivenef peuvent se proposer et...
Ils vont être bien trop préoccupés par leurs propres difficultés pendant un certain temps. »
interrompit Brashen.
« Je suis désolé. J'ai du mal à réfléchir convenablement ce soir. J'oublie constamment que vous ignorez ce qu'il s'est passé. Il y a eu une émeute au quai des taxes. Ténira et quelques autres sont descendus en force. Ils ont déplacé Ophélie au milieu du port et une véritable flottille est arrivée pour la décharger. La cargaison a été dispersée par toute la ville. Ténira a préféré y renoncer plutôt que d'acquitter les taxes. Mais cela n'a pas empêché les Chalcédiens de s'en mêler.
D'où ça? Prends pitié de nous. Y a-t-il eu des blessés?
Demanda Ronica.
Le capitaine du port est très contrarié par le naufrage de deux galères, répondit Brashen avec un sourire peu amène. Malheureusement, elles ont sombré tout près du quai des taxes. Aucun grand navire ne pourra s'y amarrer avant un bout de temps. Ça seul sait quand ils trouveront le moyen de remonter les épaves.
Elles ont brûlé en sombrant,
ajouta Ambre, à la fois attristée et satisfaite. Puis elle ajouta avec désinvolture,
« Une partie du quai a aussi pris feu. Quand nous sommes partis, des entrepôts du gouverneur flambaient encore. »
Brashen s'adressa à Althea sur un ton provocateur.
« Vous admettrez qu'il y avait de quoi s'inquiéter pour votre sécurité par une nuit pareille. »«
Vous y étiez ?»
Son regard allait de l'un à l'autre.
« Tous ces incendies, trop nombreux pour être accidentels ? C'était un plan concerté, n'est-ce pas ? Pourquoi n'étais-je pas au courant ?»« Ophélie et moi sommes devenus de très bonnes amies, »
répondit Ambre évasivement.
« Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ?»«
Peut-être n'était-ce pas la place d'une fille de marchand ?» suggéra Brashen en haussant les épaules. Puis il ajouta avec aigreur,
« Peut-être Grag se soucie-t-il assez de vous pour avoir voulu vous épargner d'être arrêté à votre tour. » « Grag a été arrêté ?»«
Pas longtemps. On a retrouvé les gardes chalcédiens qui étaient censés le retenir prisonnier, mais Grag lui-même a disparu. »
Il se permit un petit sourire.
« Cependant, je crois savoir qu'il va bien. Je ne doute pas que vous ayez de ses nouvelles dans un jour ou deux. Il ne laissera certainement pas la dame de son cœur dans l'incertitude. »
« Comment se fait-il que vous, vous en sachiez autant ? Comment se fait-il que vous vous soyez trouvé là-bas ? »
s'exclama Althea, dont la colère montait. Elle s'était empourprée. Kefria ne comprenait pas pourquoi elle était si échauffée. Aurait-elle préféré assister à l'émeute plutôt que de reconduire Davad ?
« Quand j'ai vu une bande de marchands mécontents se former et quitter la Réunion, je les ai suivis.
et quand j'ai compris ce qu'ils avaient l'intention de faire, je me suis joint à eux, comme beaucoup d'autres en chemin. »
Il marqua une pause.
Plus tard, j'ai entendu parler de l'incident avec la voiture de Davad Restart et de ce que certains voulaient lui faire à lui. Si j'avais été là, je ne vous aurais jamais permis de conduire cette voiture seule. Où Ténira avait-il la tête?
Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi,
s'écria férocement Althea, folle furieuse.
Je n'ai besoin de personne.
Brashen se croisa les bras sur la poitrine.
Oh, évidemment. Seulement, je ne comprends pas très bien pourquoi vous avez pris la parole à la réunion pour demander une aide que vous refusez maintenant.
Je n'ai pas besoin de votre aide à vous,
précisa-t-elle farouchement.
Moi, si.
Kefria savoura la stupéfaction de sa sœur. Elle rencontra l'œil noir d'Althea avec calme.
« Tu sembles oublier que c'est moi et non pas toi, la marchande de la famille. Je n'ai pas la présomption de repousser la seule offre d'aide que nous aurons peut-être. »
Elle se tourna vers Brashen.
« De quoi avons-nous besoin pour mettre ce plan sur pied? Par où commençons-nous ? »
Brashen inclina la tête vers Malta.
« La petite a raison. Nous avons besoin d'argent pour débuter, » dit-il,
puis il hocha la tête à l'adresse de Ronica.
Et la dame du capitaine devra insister auprès de Davad Restart pour qu'il présente avantageusement notre proposition au lieu de chance.
L'approbation d'autres propriétaires de Vivnef serait efficace.
Peut-être Althea pourrait-elle convaincre son amoureux de dire un mot en notre faveur.
Je connais quelques Vivnef et je m'adresserai directement à elle.
Vous seriez étonné si vous saviez l'influence que peut exercer une Vivnef sur sa famille.
Il respira et se frotta les tempes, puis rangea son mouchoir avec lenteur.
Althea a raison. Rassembler un équipage ne sera pas commode. Je vais m'y mettre immédiatement, faire passer le mot dans les tavernes que j'engage des hommes énergiques et audacieux. Ceux qui se présenteront s'attendront un peu à devenir pirates. Il se peut qu'ils tournent les talons en entendant le nom de Parangon, mais...
Moi j'irai. Je naviguerai avec vous.
Le petit garçon rougit un peu quand ils se tournèrent tous vers lui, éberlués, mais il ne baissa pas les yeux. Son assiette était parfaitement nettoyée. Avec le repas, le gamin semblait avoir pris de la substance ainsi que de l'énergie.
« C'est une proposition très brave, petit, mais tu es encore un peu jeune, » dit Brashen, qui ne put dissimuler tout à fait son amusement.
Le garçon parut indigné.
« J'ai pêché avec mon pas ?» Avant qu'il soit venu nous prendre en esclave, j'aime débrouiller sur le pont,
affirma-t-il en haussant ses frêles épaules.
J'aime mieux faire ça que ramasser de la mette de cheval. Les chevals, ça pue.
Tu es libre maintenant, tu peux aller où tu veux.
Tu n'aimerais pas mieux rentrer chez toi dans ta famille?
Demanda Kefria avec douceur. Son visage étroit se figea. On aurait cru que ses paroles l'avaient à nouveau rendu muet. Enfin, il haussa les épaules et expliqua d'une voix plus rude, moins enfantine.
« Il n'y a plus rien que des cendres et des eaux là-bas. Je préfère tourner en mer. C'est-y ma vie, pas vrai? Je suis libéré, non ?»
Il regarda autour de lui d'un air de défi, comme s'il s'attendait qu'on revienne là-dessus.
« Tu es libre, »
confirma Althea.
« Alors, je vais avec lui, »
fit-il en relevant brusquement le menton en direction de Brashen. Celui-ci secoua lentement la tête.
Voilà une autre idée,
intervint inopinément Malta.
Acheter un équipage. J'ai vu des marins au visage tatoué à Terrilleville. Pourquoi ne pourrait-on en acheter quelques-uns tout simplement?
Parce que l'esclavage est une mauvaise chose, fit remarquer Ambre sèchement. D'un autre côté, je connais des esclaves qui risqueraient volontiers le châtiment pour s'enfuir et faire partie d'un équipage. Ils ont été enlevés à leur foyer et à leur famille dans les îles des pirates. Ils seraient peut-être prêts à prendre part à une aventure si on leur promettait qu'ils pourraient rentrer chez eux. Certains connaissent probablement même les eaux là-bas.
« Pourrions-nous faire confiance à des matelots esclaves ?» demanda Kefria avec hésitation. « Sur le navire, ce ne seront plus des esclaves, » fit observer Brashen. « Si j'ai le choix entre un fugitif robuste et un ivrogne fini, je prendrai le fugitif.
Un peu de gratitude de la part d'un homme à qui l'on a donné une seconde chance, ça peut améliorer bien des choses, dit-il l'air pensif soudain.
Et qui vous a chargé d'engager qui que ce soit ?
Objecta Althea.
Si nous décidons, je veux avoir le dernier mot sur mon équipage.
Althea, tu n'imagines tout de même pas naviguer avec eux,
protesta Kefria.
Comment as-tu pu en douter? Si nous partons à la recherche de la Vivacia, je dois être à bord,
rétorqua Althea en regardant sa sœur comme si celle-ci était folle.
C'est parfaitement inconvenant,
s'exclama Kefria horrifiée.
Le parangon ne sera pas fiable avec un équipage disparate dans des eaux dangereuses. Il y aura peut-être des combats. Tu ne peux pas partir, c'est impossible. Que penseraient les gens si nous te permettions de naviguer sur un bateau pareil?
Le regard d'Althea se durcit.
Je m'inquiète plus de ce que les gens penseraient si on se contentait de laisser les autres courir tous les dangers à notre place pour récupérer le navire. Comment pourrions-nous clamer qu'il s'agit d'une mission vitale pour nous et mettre nos amis à contribution tout en refusant qu'un membre de la famille prenne le moindre risque ?
Effectivement, je crois qu'elle doit naviguer. Cette déclaration étonnante émanant de Brashen les laissa bouche bée. Et il s'adressait à Kefria, reconnaissant par là que la décision lui appartenait.
Si vous ne montrez pas clairement qu'il s'agit d'une affaire Vestrite, vous n'obtiendrez pas le soutien d'un seul marchand.
Ils considéreront qu'il s'agit de confier une vive nef à un bon à rien, à un fils de marchand déshérité et à une étrangère. Et si, comme je l'espère, nous récupérons la Vivacia, le navire aura besoin d'Althea.
Grand besoin,
fit-il en la regardant avec prudence. Puis il ajouta, mais à mon avis, elle ne doit être ni capitaine, ni second, ni même membre d'équipage. Les matelots seront de ceux qu'on mate avec les poings et les biceps au début, en tout cas. Les hommes qu'on réussira à décrocher ne seront pas du genre à respecter qui ne leur flanquera pas une bonne rossée si nécessaire. Vous ne ferez pas le poids. Et si vous travaillez avec eux, ils n'auront aucun égard pour vous. Ils vont éprouver vos capacités chaque fois qu'ils en auront l'occasion. Tôt ou tard, vous en pâtirez.
Althea plissa les yeux. Je n'ai pas besoin que vous vous occupiez de moi, Brashen Trell. « Compris ? J'ai prouvé mes capacités qui ne sont pas seulement fondées sur la force physique. Mon père disait toujours qu'un capitaine qui matait son équipage en cognant était un mauvais capitaine. »«
Peut-être parce qu'il jugeait que c'était le rôle du second. »
rétorqua Brashen qui reprit sur un autre ton. « Votre père était le fameux capitaine d'un merveilleux navire, Althea. Même s'il avait mal payé, il aurait eu de bons matelots prêts à travailler avec lui. Nous ne bénéficierons pas de ses avantages, malheureusement. »
Après un bâillement intempestif, Brashen eut l'air embarrassé.
« Je suis fatigué. J'ai besoin de dormir avant qu'on aille plus avant. Nous savons au moins à quoi nous attendre. »
« Il y a un autre problème que nous n'avons pas abordé ce soir. »
objecta Ambre. Ils se tournèrent tous vers elle.
« Nous ne pouvons compter que le parangon va prendre part de bon cœur à tout cela. Il a beaucoup de peur à vaincre de son côté. D'une certaine manière, c'est un petit garçon effrayé. Le revers de la médaille, c'est que c'est aussi un homme en colère. Si nous nous décidons, il est essentiel qu'il participe de son plein gré. Car si on cherche à le forcer, nous n'avons aucune chance de réussir. »
« Il est difficile à convaincre, vous croyez ?»
demanda Ronica.
« Je n'en sais rien, »
répondit Ambre en haussant les épaules.
« Parangon est tout à fait imprévisible. Il peut être consentant au début et changer d'avis le lendemain ou une semaine après. Nous devons tenir compte de cet élément dans l'affaire. »
« Chaque chose en son temps. » D'abord, il faut obtenir de Davad Restart qu'il fasse accepter notre plan par l'élu de chance.
Je pense être en mesure de réussir sur ce point-là,
dit Ronica d'une voix où perçait une froideur métallique. Kefria éprouva un élan de sympathie à l'égard de Davad.
J'aurai la réponse avant midi, je suppose. Je ne vois pas de raison de différer la chose.
Brashen poussa un gros soupir. Nous sommes d'accord, alors. Je reviendrai demain après-midi. Bonne nuit, Ronika et Kefria.
Bonne nuit, Althea, dit-il sur un ton imperceptiblement altéré.
Bonne nuit, Brachen,
répondit Althea sur le même ton.
Ambre prit congé, elle aussi. Alors qu'Althea se disposait à les raccompagner jusqu'à la porte, le petit esclave se leva à son tour. Kefria ressentit une bouffée d'exaspération contre la conduite impulsive de sa sœur.
« N'oublie pas que tu dois lui trouver un endroit pour dormir, » rappela-t-elle.
Le gamin secoua la tête.
« Pas ici, je vais avec lui, »
fit-il avec un brusque mouvement vers Brachen.
« Non, » trancha celui-ci d'un ton catégorique.
« Libéré, pas vrai ?»
protesta le garçon avec entêtement. Il pencha la tête et dévisagea Brachen.
« Pouvais pas m'empêcher !»«
Compte pas là-dessus !» dit l'autre menaçant. Puis il ajouta radouci. « Petit gars, je ne peux pas m'occuper de toi, je n'ai pas de maison, je vis tout seul. »«
Moi aussi ?»
insista le garçon tranquillement.
« Vous devriez le laisser venir avec vous, Brachen, » suggéra Ambre. Une étrange expression méditative passa sur son visage. Avec une moue ironique, elle reprit « Ce n'est peut-être pas de meilleur augure de refuser votre premier homme d'équipage ?»«
Elle a raison, »
renchérit l'intéressé effrontément.
« Je respecte pas un homme qui ose pas y aller. Allez-y, prenez-moi, vous regretterez pas. »
Brachen le regarda entre ses paupières mi-closes et secoua la tête. Mais quand il quitta la pièce, le garçon sur ses talons, il ne fit aucun geste pour l'arrêter. Avec un léger sourire, Ambre lui emboîta le pas.
« Vous croyez qu'ils pourront ramener papa à la maison ?»
demanda Malta d'une petite voix lorsqu'ils furent partis.
Kefria cherchait encore une réponse quand Ronika déclara « Notre fortune s'écroule, ma chérie. Il n'y a aucune raison de se dérober. » Si l'entreprise réussit, la fortune de la famille peut être sauvée. Si elle échoue, nous sombrerons un peu plus vite, c'est tout. »
Kefria trouva cruel de répondre ainsi à une enfant, mais, à sa grande surprise, Malta hocha lentement la tête.
« Je pensais exactement la même chose, » fit-elle remarquer. C'était la première fois cette année qu'elle s'adressait à sa grand-mère sur un ton de parfaite politesse.